Bonsoir, cher Antoine.
Bonsoir, Arnaud Laporte. Bonsoir à toutes et à tous. D'année en année, des enquêtes statistiques constatent que le public des concerts est plutôt âgé et plutôt aisé. Les chiffres ne changent pas. Cela conduit fatalement les pouvoirs publics à se demander s'il faut continuer à donner beaucoup d'argent pour une pratique dite élitiste. Mais si la question était mal posée, interroge Michel Worms dans son éditorial de la Lettre du Musicien, et si ce public d'un certain âge témoignait au contraire de la vitalité de la musique classique en France. Certes, on voit au concert des spectateurs de tous âges, mais c'est surtout à partir de la retraite que les amateurs ont le temps d'y aller régulièrement, se rattrapant enfin de tout ce qu'ils ont manqué au cours de leur vie active. Le problème n'est donc pas de se lamenter sur ce public, mais d'être sûr de pouvoir le récupérer en temps voulu, voire de l'élargir, car lorsque inéluctablement l'âge de la retraite passera à 65 ans, voire davantage, ce public commencera à aller au concert encore plus tardivement que ses vieux aînés. La seule solution est de préparer le public très en amont, si possible dès l'enfance, dans les conservatoires, les ateliers pédagogiques, puis en encourageant la pratique en amateur, afin qu'il conserve toujours en lui une envie de musique. C'est pourquoi il est essentiel que l'État maintienne ses subventions et que les municipalités actuellement prises à la gorge sauvegardent coûte que coûte leurs conservatoires et institutions musicales. D'autant que via les enfants, on peut aussi toucher les parents. 12%, c'est relevé par Thierry Lériteau dans le Figaro, la proportion d'adultes qui, au cours de la saison 2013-2014, seraient venus à un concert de musique symphonique par le biais de leurs enfants. C'est en tout cas ce que révèle une nouvelle étude sur le public du classique menée par l'Association française des orchestres, l'AFO, et dont les résultats ont été dévoilés le 5 octobre lors d'un colloque organisé à la Philharmonie de Paris. Ce processus auquel les sociologues ont donné le nom barbare de socialisation secondaire inversée est une preuve concrète que les actions éducatives et culturelles menées par les acteurs de la musique classique ces dernières années portent leurs fruits, assure Philippe Fanjas, le directeur de l'AFO et ancien administrateur de l'Orchestre National de Lyon. Des actions dont le projet DEMOS, un dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale, lancé en 2010 en France afin de permettre à des enfants de pratiquer la musique en orchestre et de favoriser leur accès au répertoire classique, est le fer de lance. Il faut sortir du poncif selon lequel le public du classique serait purement monolithique. Notre étude, qui concerne 13 orchestres répartis dans toute la France, montre que la réalité est plus complexe et que nos publics, tant au niveau de l'âge que de la classe sociale, peuvent se diversifier. À nous, comme au pouvoir public, de poursuivre nos efforts en ce sens, en faisant des propositions artistiques adaptées, estime Philippe Fanjas. Aurélien Ettori Dufour, lui, n'a pas attendu l'étude de l'AFO pour mettre ce précepte à exécution. En 2010, ce jeune homme chargé d'événementiel a eu l'idée folle d'organiser un festival de musique savante dans un ancien squat emblématique de la capitale, reconverti en atelier d'artistes et espace d'exposition, le 59 Rivoli, avec pour principal objectif de secouer les mentalités, notamment chez les jeunes, et de prouver que la musique classique, dit-il, c'est aussi de la musique actuelle. N'ayons pas peur de passer pour de vieux schnocks. Le cloisonnement des genres est une pure vue de l'esprit. On peut être fan de heavy metal et aimer Chopin. Les deux ne sont pas forcément incompatibles. La manifestation entièrement gratuite était lancée sous un titre volontairement provocateur. Le classique, c'est pour les vieux. Et on pourrait ajouter, les classiques n'ont pas de prix. C'était le titre d'une initiative de l'orchestre Allée, fierté de Manchester. Un concert un peu spécial donné le 6 septembre. Le caractère particulier de la soirée n'était pas recherché dans le programme, composé de hits confirmés comme la 5e symphonie de Beethoven ou Water Music de Handel, mais dans la manière de ne pas faire payer le spectacle, rapporte le correspondant du Monde à Londres, Philippe Bernard. En effet, les spectateurs pouvaient réserver gratuitement leur place et étaient invités à verser à la fin du concert la somme correspondant au plaisir qu'il leur avait procuré. L'orchestre Allée, la plus vieille formation symphonique du Royaume-Uni, facture habituellement ses places entre 10 et 40 livres sterling, soit de 14 à 57 euros. L'objectif est d'attirer des gens qui ne sont jamais allés au concert de leur vie et de leur montrer à quel point c'est enthousiasmant, a expliqué à la BBC John Summers, l'administrateur général de l'orchestre. Nous préférerions qu'ils payent, mais s'ils ne le font pas, cela nous est égal. Nous voulons qu'ils acquittent le prix qu'ils pensent que cela vaut. L'idée du paiement volontaire pour l'écoute d'une œuvre musicale a été lancée en 2007 par le groupe rock Radiohead. Cette année-là, leur nouvel album In Rainbows était téléchargeable, moyennant une contribution volontaire. Déclenchant une polémique, la formule avait transformé en happening la sortie de cet opus. Contre toute attente, il est apparu que le public s'était en général acquis s'acquitter du prix habituel d'un album. Certains économistes adeptes des freakonomics, l'économie saugrenue, ont expliqué cette attitude par la volonté des clients de se sentir ou de paraître généreux. Une piste à explorer, même si à l'heure où le financement de nombreux orchestres est en péril, il est peu probable que le payer si vous aimez devienne la norme.